Rémi Campion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué du Secours catholique pour les pays de l'Adour, donc Béarn, Pays Basque et Landes. On est bientôt au mois de novembre, et le mois de novembre, c'est vrai que c'est un mois où on parle du Secours catholique, puisque c'est votre journée nationale, et puis il y a ce rapport sur la pauvreté qui sort chaque année. Donc à l'approche de cette date, on peut peut-être faire un petit point sur le Secours catholique, plus spécifiquement peut-être en Béarn. Comment avez-vous déjà vécu ces deux années très particulière, vous avez eu finalement plus d'activités ou moins?
On a eu des activités différentes, parce que forcément la situation des gens ne s'est pas forcément améliorée, donc il a fallu qu'on apporte et qu'on continue à apporter des réponses dans des conditions difficiles, évidemment en respectant toutes les consignes sanitaires. Donc on a fait et puis en protégeant aussi nos bénévoles. Donc on n'a jamais quasiment cessé de fonctionner, jamais cessé d'aider les personnes, mais plutôt en faisant du portage à domicile, en s'organisant.
En allant vers les gens plutôt qu'en les faisant venir.
Avec des limites qui nous ont pesé, qui sont qu'en fait, la rencontre n'est pas la même. La rencontre à domicile elle peut être très intéressante, mais en particulier pour les personnes à la rue, il manquait vraiment quelque chose. Or, l'accueil des personnes à la rue, en tout cas sur Pau, est une activité importante pour nous.
Est-ce que vous avez senti une augmentation de la pauvreté ou de la précarité avec cette crise sanitaire?
Oui, très clairement. Pendant les confinements, c'était très net sur en particulier deux catégories qui sont les jeunes et puis les retraités qui probablement pouvaient vivre avec des petits boulots à côté. Voilà, en fait, toutes les personnes qui... en fait, ont besoin de petits boulots à côté.
Tout a été arrêté.
Là, effectivement, le budget, il n'y a soit plus rien, soit vraiment plus grand-chose. Donc ça, c'était vraiment des nouvelles catégories pendant les périodes de confinement. Voilà, et maintenant, on est plutôt dans l'observation un peu des impacts à plus long terme, où on voit effectivement qu'il y a quand même une augmentation du nombre de personnes qui...
qui demandent de l'aide. Ouais, voilà. Parce que donc vous proposez une aide alimentaire, une aide financière. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les personnes en précarité?
Alors ça dépend un peu des lieux, c'est-à-dire que sur une agglomération comme celle de Pau, on arrive à avoir des propositions un peu variées qui vont effectivement de l'aide financière à l'aide vestimentaire, à l'aide alimentaire. Donc on peut avoir cette... Et après, dans le Béarn plus rural, on a systématiquement des possibilités de faire des aides financières. Par contre, dans certains cas, on pourra le compléter par de l'aide alimentaire, mais pas partout. Dans d'autres cas, avec des vestiaires, qui sont aussi des lieux où on peut se rencontrer. Donc ça dépend après de nos forces bénévoles.
Justement, est-ce que vous pouvez nous donner en gros quelques petits chiffres sur le nombre de personnes aidées, le nombre de bénévoles que vous avez en Béarn ou plus spécifiquement à Pau?
En 2020, donc une année particulière, on peut estimer qu'on a aidé à peu près 5000 personnes sur le Béarn. Et avec une équipe, un nombre de bénévoles qu'on peut estimer à 400. C'est pas toujours très facile de compter, puis on sait que... les effets des confinements nous ont fait perdre quelques bénévoles, parce que c'était compliqué et qu'il y a beaucoup d'activités qu'on ne pouvait plus faire et qui étaient celles qui les intéressaient. Mais en même temps, on a eu aussi un afflux important, notamment à Pau, de nouveaux bénévoles. Donc ça, il y a aussi eu un renouvellement.
Ouais, l'effet positif, finalement,
ça
engendre un esprit de solidarité peut-être plus fort dans la difficulté.
Oui, ça c'est clair. C'est vrai à la fois pour l'engagement bénévole et c'est aussi vrai du soutien de nos donateurs. On a senti effectivement qu'il y avait une mobilisation... et c'est du coup pour moi l'occasion aussi de les remercier.
Les remercier et puis leur dire peut-être de continuer.
Oui, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. De fait, la situation pour une partie de la population s'est dégradée. Et nous, on a effectivement essayé de trouver des réponses à ça.
Quels sont les besoins si des personnes qui nous écoutent veulent aider? Est-ce que c'est plutôt de s'engager en bénévolat ou est-ce que c'est de faire des dons? De quoi avez-vous besoin?
En fait, on a évidemment besoin de tout, de dons et d'engagement. Mais ce qui me semble important de dire, c'est que les problèmes auxquels on est confronté sont de toute façon gigantesques. Et finalement, chaque envie d'engagement est utile. Et en fait, on se dit qu'il faudrait vraiment, enfin c'est ce qu'on veut devenir, c'est un lieu où en fait on favorise et on rend possible l'engagement de tous ceux qui veulent s'engager. Quelle que soit en fait la cause, c'est-à-dire que les formes de pauvreté sont multiples. On pense facilement à la précarité financière, mais en fait la solitude est une forme de pauvreté très forte aussi, la maladie. Donc le champ dans lequel on peut s'investir, il est malheureusement presque infini. En même temps, il s'y vit des choses magnifiques justement par cet engagement. Et voilà, donc on veut ne pas prioriser tel ou tel public, mais dire aux gens, dire à vos auditeurs, ben voilà, on peut être le lieu où vous pouvez venir.
Vous êtes utile de toute façon à quelque chose.
Et on essaiera, si vous avez des envies, de monter le projet avec vous. Et si c'est juste rentrer dans ce qu'on fait déjà, qui est assez vaste, c'est intéressant aussi. Ouais.
Vous arrivez concrètement à donner des choses à faire et vous n'avez jamais trop de bénévoles, quoi.
Alors ça peut arriver que sur certaines activités, on ait trop de bénévoles. Mais en fait, dans ces cas-là, il faut justement qu'on arrive à se dire, qu'est-ce qu'on fait, comment on crée autre chose, parce que les besoins, de toute façon, dépassent nos forces.
Ouais. Vous pouvez nous donner un exemple concret d'une action que vous avez créée de toute pièce grâce à des bénévoles qui souhaitaient s'engager?
C'est quelque chose qu'on cite souvent et qui n'est pas ni très vieux ni très récent, mais qui pour moi était justement une vraie illustration de ce qu'on veut pouvoir être. Je vais parler du bénévolat de répit, qui est donc en fait un médecin qui est venu nous voir, et probablement je crois qu'il était venu voir d'autres associations avant, avec son projet, en disant, moi je sais que la question des aidants familiaux est une question énorme.
Donc soulager ses aidants temporairement.
Et en fait, voilà, on dit effectivement, le secours catholique est vraiment un lieu dans lequel ce projet peut être accueilli, peut se développer, on peut mettre en contact avec des nouveaux bénévoles. Voilà le type de projet qu'on peut accueillir et qui n'est pas forcément spontanément ce pourquoi les gens vont venir au secours catholique, parce qu'en fait, ils sont en général plus orientés vers les pauvretés matérielles, financières. Et en fait, là, on a un champ de pauvreté qui est juste terrible, sur lesquels il y a aussi des prises de conscience progressives des pouvoirs publics, mais sur lesquels il y a...
Soulager les aidants, ceux qui accompagnent les personnes dépendantes, etc.
Voilà quelque chose dont on est très fiers, parce que simplement, on a su accueillir cette envie d'engagement et fédérer autour de ce médecin qui portait ça.
Est-ce que vous distinguez vraiment les personnes aidées des personnes qui aident? Est-ce que s'engager bénévolement, ça peut aussi être pour pallier à sa solitude? Et finalement, est-ce qu'on sépare vraiment les deux? Est-ce que dans les bénévoles, il n'y a pas aussi des gens qui sont heureux de donner parce que sinon, ils se sentent seuls aussi?
En fait, on ne peut pas séparer donner et recevoir. Nous sommes des êtres qui avons besoin de donner et recevoir, et on a besoin d'être d'un côté et de l'autre en même temps. Voilà. Donc effectivement, en fait, cette distinction entre bénévole et bénéficiaire, finalement, spirituellement, elle n'a pas de sens.
Et vous avez des cas de personnes au départ aidées qui deviennent aidantes?
Oui, mais bien sûr. Et souvent, on ne le sait même pas. C'est-à-dire que, effectivement, dans ce qu'on peut faire, il y a une partie... qui, parce qu'il y a de la convivialité, qui est clairement des actions de lutte contre la solitude.
Ouais.
Et effectivement, on sait, et c'est très très bien, qu'une partie des bénévoles nous rejoignent aussi parce que c'est un lieu où...
ils retrouvent d'autres personnes.
Ils vont retrouver d'autres personnes et ils se sentiront utiles, et ça, c'est très bien.
Ouais. Et c'est l'objectif, j'imagine, du secours catholique, c'est de permettre aux gens d'avoir une dignité, qu'ils soient aidants ou aidés.
C'est ça, exactement. Et... ce mouvement-là, de vivre aussi, de faire l'expérience d'une vie fraternelle, ce qui est important pour nous, ce qui est facile à dire, pas toujours facile à vivre, et puis d'amener progressivement, au-delà de la fraternité, la réflexion sur les questions de justice. C'est-à-dire que le risque dans lequel on peut tomber, c'est de dire, effectivement, voilà, on a des actions où on recrée du lien social, ce qui est très important, mais on doit aussi aller jusqu'à se dire, mais pourquoi la société génère des situations comme ça.
Aller à la source.
Aller à la source. Ce qui est moins facile pour nous, mais on ne peut pas se satisfaire de structures qui sont injustes.
Oui, vous n'êtes pas là juste pour pallier aux problèmes, vous essayez aussi peut-être de les régler en amont.
On est là pour les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la souffrance et il n'est pas question de dire, attendez que le problème se règle au niveau politique, donc on est là pour les gens. Mais effectivement, il faut aussi se dire, ben oui, comment ça peut changer, comment on peut aussi interpeller nos concitoyens sur ces questions-là, comment on peut éveiller à montrer la joie de s'engager dans la solidarité, parce qu'en fait, les bénévoles qui sont chez nous sont heureux de le faire. Comment on peut témoigner de ça, du fait que, voilà, servir son frère, c'est quelque chose qui aussi peut rendre heureux.
Donc c'est pas que politique, c'est aussi de...
C'est politique au sens...
De la communication sur le sens du gratuit, du don.
C'est politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire c'est politique au sens aussi de la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire d'un engagement dans le monde dans lequel on est. Voilà, on a un devoir de participation, on ne peut pas rester à regarder comme ça, c'est ce que nous enseigne l'Église.
En revanche, il n'y a pas d'engagement politique précis et concret par rapport aux futures élections ou... Vous restez dans votre rôle humanitaire.
On ne s'interdira pas forcément, non pas de dire on préfère tel ou tel candidat, mais d'interpeller tel ou tel candidat pour dire voilà ce qui est important pour nous.
D'accord. Ouais,
ouais. Et on ne s'interdira pas, d'autant plus si on le fait au nom et avec la parole des personnes les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on a aussi comme enjeu pour nous de dire comment la parole des gens qu'on reçoit, qui en fait ont peu d'endroits pour s'exprimer, comment cette parole peut être entendue. Et comment on peut les aider à ce que ce soit non pas notre parole, mais la leur qui soit entendue par les politiques. Mais ce qui, évidemment, ne dira jamais on choisit tel ou tel.
Oui. Un grand chantier alors à venir. Mmh. Merci beaucoup Rémi Campion. Je rappelle donc que vous êtes délégué du Secours catholique des Pays de l'Adour. Et puis on se recontactera bien sûr pour parler de ces chiffres de la pauvreté au moment de votre grande campagne du mois de novembre. Merci beaucoup.
Très bien.